Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Devant la maison de la radio.
Je vous ai convié ici devant notre belle bâtisse, car vous y travaillez en ignorant parfois l'histoire passionnante de cette maison. Guillaume,
ouais.
Ça fait quoi pendant les vacances?
Ah, j'étais à la campagne, je me suis ennuyé comme c'est pas permis.
Et admirer les courbes majestueuses et solennelles de cette maison qui fut érigée en 1963 par le général de Gaulle lui-même.
À la fin de la semaine, j'ai fini par tendre mon micro à un hérisson. Et toi, t'as fait quoi?
Oh, moi, tu sais, j'ai dormi.
Ah ouais,
et
d'accord.
Savez-vous pourquoi la maison de la radio a été édifiée ici au cœur du 16e arrondissement de Paris?
Il s'est pas passé grand-chose pendant notre absence.
Oh, bah, Chidier, le bébé de Jessica, qu'on appelle l'Ouest parisien.
Le bébé de qui?
De Jessica, des Marseillais, l'émission de télé-réalité. Et bien, son bébé s'appelle Mélone.
Il a été choisi ce lieu d'une part pour sa proximité avec la Tour Eiffel et ses émetteurs.
Sinon, t'as vu, ils ont tué le chef des terroristes.
Non, tu déconnes.
Et puis d'autre part, parce qu'elle est située à bonne distance du métro. Mais pénétrons sans plus attendre dans les entrailles de cette maison mythique.
En tout cas, moi, je suis content de retourner au bureau.
Ouais, en plus, sans ça, Stéphane Bern, ça va être rigolo.
Ça va être cool, ça va être trop classe.
Saviez-vous que c'est ici même, dans les caves de la maison, que l'on a retrouvé la dépouille du masque de fer, d'ailleurs?
Hein?
Quoi? T'es sérieux?
Stéphane Bern est d'ailleurs un descendant direct de ce personnage mythique.
Mais non!
Mais
c'est pas vrai?
Bah non, c'est pas vrai! Mais enfin, maintenant, vous m'écoutez, au moins.
Eh ben moi, je crois qu'il faudrait faire des recherches sur Mélone. Si ça se trouve, c'est l'arrière-arrière-petit frère de Louis XIV.
Mais c'est qui, ce Mélone?
Eh ben justement, si ça se trouve, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Louis XIV, ton frère. Enfin, c'est sa famille.
France Inter, bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour, tout vient à PowerPoint, à qui sait entreprendre.
C'est beau.
Et voici les trois sujets frais du jour. La contestation bat son plein dans les rues du Chili, du Liban, de Bolivie, mais aussi en Irak, à Hong Kong ou en Inde. Les citoyens manifestent contre la vie chère et leurs élites corrompues à travers toute la planète.
Que veux-tu, le monde change et nous on suit, hein?
Non! On subit, c'est pas pareil. Le monde ne change pas. Il part en sucette et nous avec.
6 mois après l'incendie de Notre-Dame, c'est l'heure de faire un premier point d'étape. Où en est-on de l'enquête, des promesses de dons et bien sûr de la reconstruction?
Bon, et comment ça avance pas les travaux?
Justement, ça avance plutôt pas mal.
Miss Lorraine devait porter une version revisitée d'un uniforme de poilu de la Première Guerre mondiale. En plus féminin et plus sexy, alors forcément, les associations d'anciens combattants s'indignent. L'histoire douloureuse de la France ne veut pas devenir du carnaval. Nous, on a demandé son avis au pépé de Miss Lorraine.
C'est que cette tenue, mais t'as perdu la boule, la Francine. Pourquoi t'es de nichon comme si t'avais le cul à l'air?
Sans transition, on doit le casting de cette émission à Juliette Arnaud.
J'ai convoqué la fine fleur de la liberté d'expression. Tout d'abord, celui dont les idées sont à l'image de sa chevelure. On n'est pas sûr de comprendre le projet esthétique. On suppose juste que ça va colorier en débordant. Et on suppose juste Thomas VDB.
Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Effectivement, vous le savez, moi j'ai la grande passion des engins à moteur. C'est ma passion des bécanes. Aujourd'hui, je vais vous parler des SUV. Et vous avez remarqué que j'ai prévu des sons dans ma vie.
Il y a même une mise en scène de sommaire. C'est incroyable.
On est tellement contents. Ensuite, celui dont le poivre et sel occipital n'est qu'un leurre. Quand il s'agit d'assaisonner le passant ou la passante, il s'en fout des épices. Le gars fait ça à l'acide chlorhydrique. Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Et ben, je vais vous parler de la chasse. Aujourd'hui, hier c'était la Saint-Hubert, c'est la fête des chasseurs, je suis donc allé les voir.
Tous les chasseurs sont, comme tous les agriculteurs, mais les premiers défenseurs de la nature.
Eh oui, glyphosate et faisant d'élevage, voilà, l'écologie comme on l'aime.
Et enfin, celui qui est ceinture noire en décryptage de notre histoire contemporaine, mais piou-piou en termes de limpidité. Bref, vous aurez envie d'être d'accord avec lui, mais vous saurez pas vraiment pourquoi. Hippolyte Girardot.
Juliette, il m'est arrivé une chose terrible samedi soir, dans la nuit, quand ils ont enlevé l'heure.
Aïe.
Ah. Alors s'il vous plaît, un peu de respect.
Bon, bah alors à tout à l'heure.
À l'heure, voilà. Et voici celui qui va jouer les fous du roi de l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Stéphane Bern.
Oh, c'est pas vrai.
Oui. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Stéphane Bern.
Merci Charline, merci à tous de votre accueil.
Mais écoutez, on est heureux, alors ça nous fait tout bizarre parce qu'on est un peu des enfants du fou du roi quand même. Et puis Thomas VDB, c'est parti, bien sûr.
Bon, c'est pas trop.
Il y a la moitié de France Inter en régie qui vient vous voir. Vous êtes un petit
mais c'est
peu...
bien, on se sent aimé de retrouver sa maison, c'est sympa.
Moi j'ai voté Macron au second tour, donc en plus ça me fait bizarre de vous voir.
Oh, vous pourrez nous donner des nouvelles.
Ça pas le rapport. Je suis pas son ambassadeur.
Ah, pardon.
Hein. Je m'occupe des vieilles pierres simplement pour rendre service au pays, mais absolument pas pour lui. Hein.
On parle déjà de Brigitte. Alors.
Déjà ? Non. Ah non.
Oh, excusez-moi, je suis pas sûre. Vous m'avez tendu la perche aussi. Oui, Stéphane Bern, vous avez beaucoup d'actualités. Déjà ce soir, il y a un secret d'histoire à 21h05 sur France 3. Vous avez changé de chaîne car France 3 est la chaîne du patrimoine.
Exactement.
Et vous êtes Monsieur Patrimoine. Donc ce soir, Marie la Sanglante sur le trône d'Angleterre. Et aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous montez sur scène avec « Vous n'aurez pas le dernier mot » de Diane Ducret. C'est au Théâtre Montparnasse. Et Juliette Arnaud est allée vous voir.
Non.
Oui, si. Bah si. Enfin quand même, et c'est mon travail.
Oui, c'est bien.
Oui, elle était payée pour ça hein, quand même.
Donc c'est un spectacle intitulé « Vous n'aurez pas le dernier mot » et c'est un seul en scène. Un seul en scène pour nous raconter ce que les grands et les grandes de ce monde ont pu trouver à dire juste avant de tirer leur révérence. Un seul en scène, bon bah c'est cohérent hein, puisqu'il paraît que face à la mort, j'en sais rien, mais il paraît qu'on est quand même bien seul. Heureusement, ceux qui sont morts, ces grands-là dont vous parlez, ils ont eu des témoins qui ont relaté leurs derniers mots. Alors, entre ceux qui ont vu le coup arriver parce qu'ils étaient sur leur lit de mort, ceux qui ont été pris de court,
la plupart.
Kennedy, par exemple.
Ah, Kennedy, oui.
Bah, ouais. Oui, voilà. Il a dit passe la seconde.
Franchement, pas loin. C'était très prosaïque, forcément.
Oui, forcément.
Les fidèles, ceux qui sont restés fidèles à ce qu'ils étaient, quand on est bouffeur de curé, on l'est jusqu'au bout, type Clémenceau, les poètes qui ont été poètes jusqu'au bout, celles auxquelles on n'a rien compris de ce qu'ils ont dit, Napoléon, c'est désolant, mais enfin on n'a rien compris. Bref, c'est une balade avant l'outre-tombe, somme toute. La première chose que je me suis dite, c'est que vous n'êtes pas superstitieux. Non, parce que franchement, c'est un coup à se faire repérer, non ? Tout un spectacle sur la mort.
Oui, mais non, c'est vrai que je me suis dit la même chose. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être morbide. Et en fait, les gens rient tellement.
Ah oui, ça, les gens rient. Hein. Mais pour que... vous, c'est pour vous, attirer la superstition.
Ça me gêne pas du tout.
Mais imaginez que la mort soit en train de rôder, qu'elle se dise, tiens, celui-là, il parle de moi.
De toute façon, ça me gêne pas du tout. J'ai pas du tout peur de mourir. Ah non, j'ai peur d'être malade, ça, c'est pas agréable. Mais partir, non, ça me gêne pas. Non, le tout, c'est de trouver le dernier mot. Toute l'idée du spectacle, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais dire en partant ?
Ouais, ça fout la pression.
En fait, ben oui, c'est
ouais,
ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens les plus admirables sont partis comme des minables, avec des trucs prosaïques. Flaubert, c'était pas brillant. Hein,
qu'est-ce qu'il a dit, Flaubert ?
Il était en colère.
Oui, il dit, cette pute de Bovary va vivre et moi, je vais mourir comme un chien.
Oh, c'est pas mal.
C'est pas mal. Non, le plus drôle, pour moi, c'est quand on demande à Voltaire, voilà, le curé arrive quand même, il lui dit est-ce que vous renoncez à Satan et à ses œuvres ? Il n'ose pas parce qu'il sait que Voltaire est anticlérical. L'autre lui dit il parle de Satan, c'est pas le moment de s'en faire un ennemi, dit-il sur son lit de mort.
Ah bah voilà, lui il est superstitieux typiquement.
Oui, il était superstitieux. Moi je suis pas du tout. C'est pas parce qu'on parle de, c'est pas parce qu'on fait son testament qu'on va mourir. C'est pas parce qu'on parle de la mort. Mais justement ça désamorce complètement tout ce qu'il y a de triste dans la mort. C'est trouver le dernier mot. Je demande aux gens, mais aidez-moi à trouver mon dernier mot.
Et d'ailleurs, vous l'avez à la fin du spectacle.
Bah oui, mais j'ai pas à la révéler maintenant.
Non, mais c'est vrai que c'est trois mots.
C'est trois mots.
Comme je t'aime.
Oui.
C'est assez modeste.
C'est très modeste.
C'est positif.
Il faut se dire. Comment on doit partir, comment on doit quitter la scène, comment on n'est que des pauvres mortels. Il faut le savoir. Moi, ça me gêne pas du tout de me dire ça. Mais le texte de Diane Ducret est très drôle, très intelligent. Évidemment, on parle de... Moi, j'aime beaucoup Apollinaire, par exemple, qui dit au moment de mourir, il meurt de la grippe espagnole, et il dit « Bah, je trouve que c'est une bonne nouvelle d'apprendre que le roi d'Espagne a aussi la grippe espagnole. Un bon roi se doit de goûter les produits nationaux. » Et je trouve ça... C'est surréaliste en même temps. Donc, ils avaient tous un peu d'esprit, ou pas. Ce qui est formidable, c'est notre ami Oscar Wilde. On lui offre une coupe de champagne au moment où il va rendre son âme, et il dit « Je meurs vraiment au-dessus de mes moyens en buvant le champagne. » Et il dit « Ou c'est le papier peint qui disparaît, ou c'est moi. » Et il meurt.
Et on sait la part de véracité de ces phrases.
Il y avait toujours des gens, en fait, ils étaient très entourés. Ouais. Par exemple, Apollinaire, il y avait Cocteau et Picasso dans la salle, donc dans la pièce, donc ils ont écrit. Donc on sait à peu près ce qu'ils ont dit, et c'est assez touchant, mais non, j'ai pas peur de mourir.
Et alors, un mot à propos de Diane Ducret, donc qui est l'autrice du spectacle. Est-ce que c'est vous qui lui avez fait la demande
Pas du tout. Mais je recevais beaucoup de j'avais joué il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant, une pièce qui s'appelait Numéro complémentaire de Jean-Marie Chauvret, qui était très drôle, une comédie écrite sur mesure. Et je l'ai joué avec Francis Perrin, Isabelle de Botton, Anne-Sophie Germanas et Cyril Gay pendant un an au Théâtre Saint-Georges. Et puis, on m'a envoyé des pièces. Puis c'était pas drôle, des comédies qui me faisaient pas rire. Donc, si déjà moi je ris pas, je me dis, le public va pas rire. Et donc, et là, tout d'un coup, elle m'envoie ce texte. Et je me dis, mais c'est tout à fait ce que j'aime, les mots d'esprit, puis la mort, et puis, enfin, c'est ma vie, quoi. Et le type hyper sinistre. Et donc, en fait, les gens imaginent un joli. Et du coup, j'ai adoré le texte. Je lui ai renvoyé. Elle a pensé à moi grâce à un copain qui lui dit, mais tu devrais envoyer ça à Berne parce qu'il y a des mots d'esprit des gens de l'histoire et de la littérature. Et quand j'ai vu le texte, j'ai dit, ça, c'est pour moi, ça, oui, je prends.
Et ça s'appelle « Vous n'aurez pas le dernier mot » de Diane Ducret, dans une mise en scène de Jérémy Lippmann. C'est au Théâtre Montparnasse, le lundi à 20h, le dimanche à 17h30.
18h même.
Ah, 18h.
Parce qu'avant, il y a Rouge avec Nils Arestrup, et il faut qu'ils aient le temps de transformer le décor. C'est un peu long.
Et de vous laisser place nette. Stéphane Bern, avec nous jusqu'à 18h, chers amis. Vous écoutez. C'est France Inter, hein, je vous le confirme.
Ah oui, c'est ça. There's a man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that song she wrote. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, 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 at a hip-shaking King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 at a hip-shaking King Creole. Something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rocking fever, baby, heaven sings. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 out of hip-shaking King Creole. Yeah, you know he's gone, 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 hip-shaking King Creole.
Le King Creole d'Elvis Presley, 17h21 sur France Inter. Pourquoi vous riez?
Parce que c'était pas du tout nos vannes.
Non, je vous ai dit ça pendant le disque?
Oui.
Ah bah non, c'est Elvis Presley. Ah, je vous ai bien eu. Il est 17h21 à Lyon et à Paris. 17h21 sur France Inter et sur RTL, car nous recevons Stéphane Bern, qui présente toujours à la bonne heure, bien sûr.
Oui, oui, le matin.
Évidemment,
oui.
Voilà. Alors ce soir, il y a un secret d'histoire. Il y a aussi le livre Secret d'histoire. C'est déjà le 9e volume,
oui,
qui sort mercredi aux éditions Albin Michel, où l'histoire est un peu revue du côté des femmes plutôt. Hein.
Oui, parce que je suis assez féministe et elles n'ont pas toujours le titre, les femmes, mais elles ont écrit l'histoire. Alors, pendant longtemps, elles étaient les maîtresses, les femmes, les mères, les filles, etc. Mais elles n'attendaient pas qu'on leur donne l'autorisation d'écrire l'histoire pour le faire. Je pensais que c'était important dans un livre de remettre les... Voilà, de redire, sans les femmes, jamais l'histoire n'aurait été écrite. Et donc, ouais, c'est mon côté un peu féministe, mais j'ai été élevée par des femmes, alors j'ai cette fibre-là.
C'est dans le livre, donc, Secret d'Histoire, paru aux éditions Albin Michel, enfin, apparaître mercredi. Donc. Stéphane Bern, pour vous entourer,
Il y a la crème. Il y a Thomas Védébi, Polly Girardot et Guillaume Meurice.
Et bien sûr, l'information.
Bah oui. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Le journal de presque 17h17.
Je ne sais pas nager, je peux te voir.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on évoquera la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Oui, l'inspirateur de Tout le monde s'éclate. à la queue leu leu.
On parlera aussi de la demande de libération de Patrick Balkany.
Libérer le patoche. Oui,
calmez-vous.
Je sais pas,
parce qu'après, on parlera de Florian Philippot.
Oui, mal aimé, je suis mal aimé. Les imitations. Laurent Gérard, RTL, tout ça.
On commence tout de suite en prenant des nouvelles d'un homme qu'on aime. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous demander, mais comment va Michel Sardou? Et ça tombe bien, hier, il était sur BFM TV.
On peut déjà plus fumer. On peut plus baiser sans un pneu Michelin. On peut plus rouler vite. On peut plus rien faire. Arrêtons.
Eh ben, ça va, a priori. C'est bon.
Ça va bien, Valérie. Il baise avec un pneu Michelin, donc tout va bien.
Ça va. Allez, on enchaîne avec la politique.
Oui, les juges ont accepté une première demande de mise en liberté de Patrick Balkany.
Et Patrick Balkany avait donc raison. Saloperie de justice laxiste.
Et on continue avec un véritable tremblement de terre politique cette fois. Franck de la Personne quitte le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot.
Oh là 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 là, mais c'est incroyable de vivre comme ça à une époque où tout va si vite. Bah,
attendez,
hein, c'est
attendez,
fou. Hein.
C'est pas tout. Ah. Franck de la Personne annonce dans la foulée la naissance de son mouvement, la gauche patriote.
Oh là là là, un parti qui serait à la fois nationaliste et socialiste.
Du national-socialisme.
Oh là 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 là.
Du national-socialisme. C'est incroyable de vivre à une époque comme ça où tout va vite vers le passé.
C'est incroyable. Allez, justice à présent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Marine Le Pen qui avait saisi le tribunal après avoir été comparé à un étron dans Charlie Hebdo et dans l'émission de Laurent Ruquier.
Donc, il est légal de comparer Marine Le Pen à un étron, une décision qui scandalise évidemment la communauté des étrons.
International à présent, le leader de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort. C'est ce qu'a annoncé ce week-end Donald Trump.
Attendez, Trump, c'est le mec qui dit que le réchauffement climatique, c'est un complot des Chinois.
Ouais.
Et là, on doit le croire, là.
De toute façon, al-Baghdadi, ça fait 12 fois qu'on nous dit qu'il meurt.
Ouais,
donc, on n'a qu'à attendre qu'il se remette pour annoncer sa mort une 13e fois.
Allez, on fait comme ça. Très bien. On fait ça.
Sécurité routière, à présent, on apprend que les piétons sont victimes de bien plus d'accidents mortels après le passage à l'heure d'hiver.
Oui, et selon la sécurité routière également, les piétons sont victimes de bien plus d'accidents mortels après le passage de Benoît Magimel aussi.
Je crois qu'il est temps de prendre à nouveau des nouvelles de Michel.
Attention, Michel.
Il en est où au niveau des élections, Michel?
Je m'en fous. Je suis un révolutionnaire, je les emmerde. Je donne plus rien, ni un blanc, ni un bleu, ni un rouge, ni un vert. Rien.
Bon.
Ça a l'air d'aller bien. Une soupe, un suppôt, puis à l'EHPAD.
Allez, on passe à l'info suivante. Info média, Charline. Vous n'avez pas peur de la violence, Charline?
Oula, allez-y, ouais.
Ok, non, parce que ce qui suit, c'est quand même hyper violent, quoi. C'est pour ça que je préfère.
Allez-y quand même.
Ouais. Alors, le CSA s'est prononcé sur la diffusion du discours de Zemmour en intégralité sur LCI.
Oula, là, en effet, ça va être violent.
Oui.
Allez-y quand
vous
même.
Vous êtes prête? On s'accroche. Eh bien, le CSA a mis fermement en garde LCI.
Bam! Oh la vache, la violence!
C'est fou, hein. C'est fou.
C'est des barbares au CSA. La prochaine fois, ils vont faire quoi, les gros?
C'est une possibilité, Charline. La France a peur.
Oh mon Dieu. Allez, on termine par l'agenda de la semaine.
Lundi, lancement par Franck Riester des célébrations d'anniversaire des 20 ans de la Fédération des ensembles vocaux.
Bah, c'est une info, ça.
Bah oui, Franck Riester travaille. C'est quand même, une sacrée info, non?
Vendredi, le paquet de cigarettes va augmenter d'environ 50 centimes.
Oui, pour compenser cette augmentation, les livres de Michel Houellebecq augmenteront également de 50 centimes à partir de vendredi.
Pour terminer, si on allait prendre une dernière fois des nouvelles de Michel Sardou, s'il a parlé du voile.
Oui, allez.
La burqa, d'accord, on la supprime. C'est une femme qui vient chercher son gosse avec un fichu sur la tête. Franchement, je vais pas lui déclarer la guerre.
Oh putain. Michel est devenu de gauche.
Oh mon Dieu.
Putain d'époque.
On est mal. Stéphane Bern avec nous jusqu'à 18h. On va vous soumettre ce premier sujet collégial, hein, bien sûr, tout le monde participe. Le vent de la contestation souffle tout autour de la planète. Au Liban, au Chili, en Inde, en Bolivie ou à Hong Kong, entre autres. Les citoyens descendent massivement dans la rue contre la vie chère, très souvent. À Santiago, contre la hausse du prix du ticket de métro. À Beyrouth, contre la taxe sur les appels téléphoniques par WhatsApp, notamment. À New Delhi, c'est à cause des oignons. Ça sent la colère mondiale et son chant de révolte.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso.
Tu m'attends donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Ça a changé, France Inter.
La révolution, c'était mieux avant.
C'est Jims et Vita qui ont un petit peu revisité.
Bella Ciao,
voilà.
Révolutionnaire italien.
Mais on s'est dit, ce vent de colère et de révolte, on a pensé à vous pour ce sujet, Stéphane Bern. On s'est dit, elle vous parvient, cette colère mondiale
bien sûr,
contre
bien
les élites, etc. Vous n'êtes pas non plus Marie-Antoinette. Comment vous la...
C'est important de le préciser. Quand même.
Ça serait très bon expo.
Alors, mais je me disais, comment vous la percevez, comment
comme
vous l'appréhendez?
Mais oui, justement, je trouve que il y a un vent de révolte contre cette élite qui dirige, sans se préoccuper de. Du sort des plus fragiles, parce que souvent c'est une étincelle qui met le feu aux poudres, notamment c'est l'augmentation d'un ticket de métro, c'est on l'a vu au Chili, on l'a vu en Bolivie, on l'a vu au Liban. Évidemment, ils ont le sentiment, d'ailleurs ça crée un sentiment national d'ailleurs au Liban, c'est très intéressant ce qui se passe à Beyrouth, où pour la première fois il y a eu un tel clientélisme, comme vous savez que le pouvoir est partagé entre les communautés, les chiites, les sunnites et les chrétiens, le pouvoir est partagé et le peuple se révolte, beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui ont fait de belles études et qui n'ont pas de travail. Et ils se disent, mais eux, ils se partagent les postes, le pouvoir, etc. Et nous,
et
on est...
Et ça fédère, donc.
Et ça fédère.
Au Liban, oui.
Et au Liban, c'est exactement ce qui se passe. Je trouve que, oui, cette élite, elle est hors sol. Mm-hmm. Elle se rend plus compte qu'il y a une jeunesse qui est instruite, qui est en train qui demande aussi à prendre position, à avoir des postes. Et puis d'autre part, cette mondialisation qui est très violente, qui échappe aussi à l'entendement, tous ces gens qui se partagent comme ça les richesses du monde... Alors que les gens se retrouvent sans rien et sont perdus, ils sont un peu les laissés pour compte de cette mondialisation.
Vous avez parfois l'âme révolutionnaire, Stéphane Bern ?
En permanence en révolution.
Quel gauchiste, ce Stéphane Bern ?
Non, c'est pas une question à gauche, à droite, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut toujours avoir cette capacité de se révolter, de ne pas accepter d'être rebelle et rétif à la discipline, ou en tout cas à l'embrigadement, et toujours rester soi-même, ne pas tout prendre pour argent comptant. Je suis à la fois, je peux être à la fois assez conservateur, même si c'est un mot qui commence très mal, et en même temps, c'est le en même temps, vous voyez, être très révolutionnaire. Non, c'est vrai que j'ai toujours été insolent, impertinent, j'ai toujours contesté, je suis jamais d'accord. Voilà, c'est l'esprit français, gaulois.
Et vous avez déjà manifesté ?
Bah, tout le temps.
C'est vrai, mais dans la rue, battre le pavé,
bah,
vous
oui,
dites
et quoi et...
C'est moi le bout de la question.
Non, mais on voulait savoir, on était intéressés.
Ma première manif. Ah bah oui, moi je manifeste en perruque, c'est normal. Avec chaise à porteur, bah oui. Bah, les gens imaginent bien, je vais pas y aller comme ça. Donc,
alors c'était quoi cette première manif?
Mais c'est incroyable.
L'image d'un auditeur de France Inter. Mais qui ne vous a pas vu depuis longtemps. Alors.
Ils m'ont pas vu, ils ne se souviennent pas quand même. Oui. Alors non, mais la première manif, c'est... Vous savez quand Raymond Barre en 80, après l'attentat de Copernic, avait dit qu'il y avait eu X morts, dont des victimes innocentes. Et il ne comptait pas les Juifs. Donc qui étaient donc pas innocent, qui étaient pas innocents puisqu'ils étaient juifs. Et voilà ce qu'ils disaient, c'était horrible. Donc je suis descendu dans la rue, c'est la première manif, j'avais 15-16 ans. Et là j'ai manifesté, j'ai souvent manifesté depuis. Donc, oui, j'ai cette
capacité. Et la dernière, alors ?
Les gilets jaunes, hein ?
La dernière, mais je me suis retrouvé, oui, mais sans le vouloir, forcément.
Dans à des l'insu de votre plein gré.
Non, c'est pas ça, c'est que je me suis... vous savez, quand je suis allé à Montabon, dans la Sarthe, pour on a restauré la rotonde ferroviaire, j'ai été attendu, les ministres se sont décommandés, et moi, j'y suis allé, et donc j'ai été accueilli par... Il y a d'un côté les gendarmes, de l'autre côté les gilets jaunes, et ça s'est tellement bien passé qu'à la fin, les gilets jaunes disaient Bern président. parce que j'ai pas eu, enfin voilà, j'ai pas besoin d'avoir peur, c'est les citoyens, et je suis allé à leur rencontre et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Vous savez, il faut écouter les gens simplement. Moi qui suis maintenant, qui vis beaucoup dans le Perche, je comprends aussi la colère des gens. Et je trouve que le patrimoine est un facteur d'égalité justement entre les campagnes et les villes, parce que là, il y a la moitié du patrimoine.
C'est bien, vous commencez à parler comme un politique. Je comprends la colère des gens. Vous êtes sur la bonne voie, Stéphane.
Non, mais je parle pas de politique, moi je m'en fiche. Oh, je suis comme vous, vous n'en avez rien à faire. Des gens.
On s'en fout d'ailleurs, on est entre nous, personne ne nous écoute. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est l'heure de la chronique de Thomas VDB.
Ah, ouais. Voilà. Parce que j'ai utilisé ce son au début de l'émission, je me suis dit quitte à faire rechercher un son par le derrière, je me suis dit on va l'utiliser deux fois.
Parce que moi j'ai
vraiment la passion des engins à moteur, vous savez que j'adore, voilà, j'ai la passion automobile, j'adore les R25, les turbo diesel, les 6 soupapes, et j'adore faire ronronner le moteur de ma voiture sous le capot, voilà. Je vais donc vous parler aujourd'hui des SUV. Je suis vraiment trop branché avec mon SUV. Je vais à plus de 100 et
j'écrase la moitié des passants. Peu m'importe de mourir si c'est en pollure.
Voilà, donc je vais donc parler des SUV, ces voitures qu'on appelait donc avant les 4x4. Alors moi, il faut savoir que je me souviens quand j'étais petit, je regardais souvent Stade 2. Et à la fin de l'émission, des fois, Gérard Holtz, il disait « Maintenant, on va regarder les images du Camel Trophy !» Et c'était un rallye en voiture sur des routes hyper difficiles, où c'était plein de boue. Et moi, j'adorais ça, le Camel Trophy. C'est quand même... Alors c'est grâce à eux que j'ai eu l'idée de fumer. Voilà, donc et c'est vrai que quand on regardait Camel Trophy, les concurrents, ils devaient carrément traverser des rivières en voiture. Et des fois, ils étaient coincés dans l'eau. Et il fallait qu'ils utilisent un treuil parce qu'ils étaient enlisés. Il y a un gars, il était là « Tire, Bernard, on s'enfonce !» Et donc, j'en viens à mon sujet. Ça, c'est des gens, ils avaient vraiment besoin d'un 4x4.
Ah oui.
Ça, c'est, eux, ils avaient vraiment besoin d'un 4x4. Donc aujourd'hui, on dit plus 4x4, on dit SUV. C'est un acronyme qui veut dire Sport Utility Vehicle. Donc c'est un véhicule utile pour faire du sport. Et c'est vrai que c'est pratique pour ça, parce qu'il y a de la place dedans. On peut à l'aise mettre une table de ping-pong dedans quand même. Et il y en a vraiment de plus en plus partout, des SUV. À la campagne comme en ville, on sent que les gens craquent complètement pour les SUV. Ils en sont red-dingues. Ils sont croque-love des SUV. J'ai des chiffres, c'est des vrais chiffres. En 2010, il y avait 35 millions de SUV dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 200 millions. Alors, c'est incroyable parce que ces chiffres, on dirait quasiment ceux des abeilles, mais en inversé. Vraiment, c'est une prolifération inouïe. Et pourtant, c'est bizarre, on se dit, de rouler en SUV, par exemple, quand on habite en France, là où les routes, quand même, en général, sont relativement praticables. Hein, c'est vrai. Le SUV, c'est un peu comme un tank de ville. C'est vrai, parce qu'avant, quand on renversait un passant, par exemple, en Seat Ibiza, ben on lui cassait la jambe, un petit traumatisme crânien. Le SUV, c'est plus lourd, hein, c'est plus puissant. Donc l'avantage, c'est qu'on peut renverser les passants avec beaucoup plus d'efficacité. Ça, vraiment, pour ça, c'est bien. Et c'est étrange de voir une telle explosion des ventes de SUV quand même en ce moment, parce qu'on entend tout le temps qu'il faut changer plein de trucs dans notre quotidien pour éviter la catastrophe. Faut plus prendre l'avion, faut moins manger de viande, faut éteindre le salon quand on est dans la cuisine, voilà. Donc du coup, moi je pensais que dans cette liste, le fait de ne pas acheter des grosses voitures qui polluent, c'était implicite en fait. Mais non, apparemment pas du tout. Donc je précise aux écolos, vous êtes sympas, mais quand même, quand vous faites des recommandations, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Hein, faites des listes exhaustives, s'il vous plaît. Alors ok, bon, maintenant je me dis peut-être qu'il y en a qui achètent des SUV et ils font ça par anticipation. Parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, c'est foutu, c'est bientôt la fin du monde. Alors, on le sait, de toute façon, en plus, quand il y a la fin du monde, il y a qu'à voir dans Armageddon, les infrastructures, elles sont en ruine. La voirie, elle est complètement massacrée et tout. Donc, peut-être que les gars, ils se disent, bah, moi, je serais tranquille avec mon gros SUV, pour rouler pépère dans ce futur apocalyptique. Voilà, c'est des gars, en fait, ils ont des temps d'avance, comme ça. Et pour dire, le point auquel tout le monde, eh bien, craque pour les SUV, on a appris récemment que la députée de La République En Marche, Anne Brunera, avait testé un modèle de SUV de chez Volvo pour un magazine lyonnais.
Oh merde.
Alors, bah, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Bon, en même temps, c'est vrai que ça faisait 2 semaines qu'aucun membre de La République En Marche s'était fait choper pour un truc. Ça commence à faire un peu long. Et donc, elle a dit que le modèle était robuste et sûr. Alors, on sent vraiment, elle a raté sa carrière de chroniqueuse dans Autoplus. Peut-être elle rêvait de travailler avec Robert Chapatte, là, dans Turbo sur M6. Et donc, pour se défendre, quand même, elle a dit qu'elle ne savait pas quel véhicule on allait lui demander de tester. Et qu'en plus, elle a dit qu'elle avait fait pour prouver que les femmes aussi, elles ont le droit de s'intéresser aux voitures. Voilà, donc, grosso modo, c'est un acte féministe. Hein. C'est important de savoir que la pollution, en général, c'est non. Mais si c'est de la pollution féministe, ok. La pollution féministe, ça marche, ok. Voilà, donc je termine là-dessus. Je voulais vraiment à nouveau m'adresser aux écolos afin de leur demander, ben, vraiment de mieux nous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour sauver la planète. Et vraiment, n'hésitez pas à aller vraiment dans le détail. Parce que sinon, vous voyez bien, voilà, on fait n'importe quoi. Donc, arrêtez les écolos de nous surestimer. Sinon, la fin du monde, ben, il y aura quoi? Ce sera entièrement de votre faute.
Thomas BDB! Merci Thomas! Et si vous avez raté les précédentes chroniques de Thomas, elles sont podcastables, bien sûr. C'est la modernité, c'est la start-up, c'est le podcast. Mais c'est fou!
Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimée de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Par la poésie, les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, une nouvelle idée. péché principal, mon obsession sentimentale. Mon incendie, mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est par la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini. Elle a dit, c'est par la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, chip chip, c'est fini.
Chip Chip, c'est déjà fini, cette chanson d'Arnaud, c'est un extrait de son nouvel album. Vous écoutez France Inter, il est 17h38, Stéphane Bern est avec nous, vous pouvez le voir sur scène, figurez-vous. Dans Vous n'aurez pas le dernier mot, c'est au théâtre Montparnasse, dans une pièce de Diane Ducret, dans une mise en scène de Jérémy Lippmann. Il est seul en scène, Stéphane Bern. Et on l'a pour nous, rien que pour nous, jusqu'à 18h. Stéphane, on profite de vous. Guillaume Meurice a fait un sujet, mais en pensant à vous.
Oui, bah oui, je suis hyper content de vous retrouver. Et pour faire plaisir à notre invité Stéphane Bern, eh ben, j'étais hier au château de Fontainebleau. Et figurez-vous, Stéphane, que je partage avec vous cette passion des têtes couronnées. Bon, vous, il faut que les têtes soient accrochées au reste du corps, je crois ça. Bon, moi, non. Mais bon, on est pareil quand même. Non,
mais j'aime le château de Fontainebleau.
Ça. Aussi, voilà. Et moi, je suis content de retrouver tout le monde, même Thomas VDB. Ouais. Je voulais vous faire plaisir aussi, votre passion, c'est la musique, on le sait, ouais. Et c'est les chiens aussi. Ah, oui. Ah ouais, c'est deux passions. Et ben, il fallait être hier à Fontainebleau, écoutez ça.
Bah, c'est pas grave, alors, j'étais pas.
Non, enfin, il y a les deux là, il y a les deux. Hein. Voilà, c'était donc la fête de la chasse, la Saint-Hubert, et plus précisément de ma chasse préférée à moi, la chasse à cours.
Oh,
ah, j'adore. J'adore parce qu'il n'y a pas de fusil, Stéphane, la chasse à cours. Il n'y a pas de violence. Pas de violence. C'est juste une meute de dizaines de chiens qui courent après un gibier pour l'épuiser jusqu'à ce qu'il agonise avant qu'un mec en botte montante vienne l'achever au couteau. C'est quand même assez cool. C'est un mélange de Francis Lalanne et de Guy Georges, mais version sanglier. Si je veux résumer un petit peu le tout. C'est quelque chose qui est vraiment très, très beau. Et voilà, j'ai rencontré plein de belles personnes. Par exemple, ce chasseur qui était ravi.
Ouais, c'est une Saint-Hubert. C'est la fête des. C'est le patron de la vénerie, quoi.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vénerie, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout la chasse... la vénerie, surtout la chasse... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'en sais rien.
C'est vous qui êtes spécialiste de la vénerie ?
Oui.
Oui, oui, mais bon, voilà. Bon, voilà. La chasse, c'est aussi ça, c'est la convivialité. Hein. Voilà, ça rassemble toute la France.
C'est la chasse de la vénerie. Voilà.
Il y a la convivialité des Côtes-du-Rhône, voilà, du Beaujolais, du Chablis, c'est une belle convivialité. Alors, la vénerie, bah, vous l'avez dit, Stéphane, c'est la pratique de la chasse avec des chiens, donc plus généralement la chasse à cours. C'est une pratique qui est controversée. Alors, qu'est-ce que ce même chasseur pense des gens qui critiquent cette pratique ?
Bon, parce que c'est des petits citadins, ils connaissent rien du tout, quoi, en fait. La chasse, c'est un animal, c'est la chasse des chiens. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Hein. C'est le principe hein, du plus gros qui mange le plus petit. Hein, point, c'est tout. Hein.
Mais vous êtes plus gros ou plus petit qu'un sanglier ?
Ah, moi, j'en sais rien. Je me pose pas la question. Un sanglier, c'est plus gros que moi.
Ah merde, oui, bah, il fallait pas poser la question, hein, parce que si c'est le plus gros qui mange le plus petit, j'espère que les sangliers vont pas dresser des chiens pour chasser le Gérard ou le Jean-Claude en forêt de Fontainebleau. Hein. Sinon, on est un peu mal, même si ce serait naturel, hein, selon ce monsieur. Poursuivons.
Dans la mer, ils se posent pas de questions, les gens. Hein. Voilà, c'est
comme... Dans la mer ?
Oui, dans la mer, c'est pareil. Hein.
Est-ce qu'il y a de la pêche à cours ?
Ah, pourquoi pas ? Ça se pourrait. Ils éduquent bien les phoques.
Une pêche non. À cours avec des phoques, ah, ce
non,
serait
non,
formidable.
Non, non, non. Là, on délire. Là.
Non, bah, attends, pourquoi pas ? Moi, je suis là aussi pour proposer des solutions. Il faut être ambitieux. C'est un art qui se décline, ça. Hippolyte, par exemple, il dresse des singes communistes sous LSD pour écrire ses chroniques. C'est comme ça, c'est sa tradition à lui. Chacun gère les animaux comme il veut. On respecte. Et on respecte l'animal en lui-même. Ça, c'est vraiment le plus important quand vous chassez. C'est quoi qu'en pensent certains.
Au contraire, il y a un grand respect de l'animal. Et c'est ça qui fait la beauté, justement, de la chasse. Ce sont les chiens qui chassent, ce ne sont pas nous. Nous, on est là juste pour aider les chiens, c'est tout.
Voilà. Ah oui, mais si vous n'êtes pas là, les chiens, ils ne chassent pas.
Oui, bien sûr.
Oui, non, mais il faut le dire quand même. Même pour la chasse plus classique, on n'a jamais vu des chiens au Café des Sports le dimanche matin avec un Ricard en disant « Putain, il a quand même la classe, Pascal Praud !» Jamais, ça n'est jamais arrivé. Continuons donc avec un autre chasseur pour un petit peu plus de précision.
Vos chiens sont capables de courir 4 heures. L'animal est capable de courir 4 heures, globalement.
Mais est-ce que c'est pas barbare, ça, de courser un animal pendant 4 heures ?
Mais non, c'est barbare, c'est la nature. C'est comme ça que ça se fait. Moi, je suis pas prédateur, c'est mes chiens qui sont prédateurs. Moi, j'élève simplement mes chiens et mes chiens sont des prédateurs.
Ouais, voilà. C'est ça que j'arrive pas. Ouais, j'avais pas du mal à piger. C'est les chiens, en fait, qui sont prédateurs. C'est pas l'homme qui chasse, c'est le chien. Idem avec les autres types. Mais non, c'est vrai. Stéphane, par exemple, vous chassez au fusil. Vous, bah, c'est pas ça, vous, moi, c'est pas vous qui tuez l'animal, c'est la balle du fusil. Oui. Non, mais c'est ça qui est important à comprendre. C'est ça que les faisans, par exemple, et les cyclistes, ils veulent pas piger ça. Voilà. Ben, je vous le dis, c'est des connards d'ailleurs. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont mes cordes vocales qui le disent. D'accord? Allez, concluons avec la mise à mort de l'animal.
Ben, la mise à mort, c'est jamais le moment le plus intéressant hein, de la chasse, évidemment.
Si c'est pas la mise à mort qui est intéressante, pourquoi vous mettez à mort un animal?
Mais la vie et la mort, elles font partie de la vie. On ne peut pas vivre si on meurt pas. Et on le sait. D'accord?
Ouais, d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est important de tuer pour se rappeler que la vie, c'est quand même chouette. Non, mais parce que c'est vrai que ces cons de chevreuil et de cerf, ils ont un peu pris la confiance ces derniers temps. C'est bien de les faire revenir à la réalité à coups de couteau dans le museau un petit peu. La mort, c'est donc important. Pierre Arditi est en mort cérébrale. D'ailleurs, on le rappelle, hein, par exemple, il le sait, hein, depuis qu'il a signé la tribune pour la corrida. Tout doit mourir, tout va mourir, y compris les traditions mortifères.
Guillaume Meurice, merci. Vous avez passé un bon week-end. Merci de nous l'avoir fait partager pour Stéphane Bern.
Vous avez pris du plaisir, au moins.
Ah bah, à fond. J'aime bien interroger les gens, moi. Alors. Oui.
Puis c'est joli, c'est un joli cadre.
C'est un joli château.
Monsieur Patrimoine est en notre compagnie, Stéphane Bern. Alors parlons...
Ça me donne 100 ans.
Parlons de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a eu lieu il y a juste un peu plus de 6 mois. Si on s'en réfère à la promesse du président de tout reconstruire en 5 ans, aujourd'hui, on devrait être déjà à un dixième du chantier. Là, Stéphane Berne soudain pâlit. Les travaux, on sait quand ça commence. Déjà pour la salle de bain de ton F2, on ne sait pas quand ça va finir. Alors pour une cathédrale. Alors voilà comment ça se passe en ce moment sur le chantier.
Mais pourquoi il n'est pas protégé avec des bâches, mon sol?
À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres.
Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture de mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches?
Les fenêtres, elles sont avec les portes dans le jardin.
Mais pourquoi elles ne sont pas posées, mes portes et mes fenêtres?
Ben si, elles sont posées, mais dans le jardin.
Mais qu'est-ce qu'elles foutent posées dans le jardin?
Bah avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous faites pas de mourons, le gars qui vous les a livrés va vous les poser, vous portez vos fenêtres, vous portez vos fenêtres.
Et pourquoi il les a pas déjà posées?
Parce qu'il a eu un petit accident, il s'est pris une porte.
Bon, il aurait pu se prendre une porte, il n'y en a aucune de posée.
Bah justement, il s'est pris une porte dans l'escalier en voulant la poser dans le jardin.
Extrait de La Maison du Bonheur, de et avec Danny Boone, et on entendait Laurent Gamelon. 6 mois, c'est l'heure du premier rendez-vous de chantier. En tout cas, dans la presse, il y a des premiers bilans, des questions. Stéphane Bern, est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour un premier point d'étape sur Notre-Dame de Paris? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui?
Ce qu'on peut en dire, pardon, mais d'abord, il y a toujours la sécurisation. Et puis, vous avez vu qu'on a perdu beaucoup de temps avec le principe de précaution sur le plomb. Maintenant, on sait qu'il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas plus qu'il y en a ailleurs, puisque le plomb ne reste pas dans l'air et il se pose. Voilà. Et par contre, il y a ce principe de précaution, ça s'applique. Alors, je ne suis pas sur le chantier, mais j'entends ce que disent les responsables du chantier, où il y a, comment dire, l'inspectrice du travail qui fait du zèle, d'une certaine manière, et qui empêche les donc beaucoup de gens démissionnent parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Il faut prendre 6 douches par jour. Donc, si vous passez plus de temps à prendre des douches qu'à faire avancer le chantier, donc c'est pratiquement au point mort pour le moment.
Mais ça veut dire que si les gens prennent des douches tout le temps, c'est qu'ils sont quand même inquiets par le
non,
le
c'est le principe de précaution qui s'impose sur les zones. Mais maintenant, il y a des rapports qui sortent en disant il n'y a pas plus de plomb qu'il y en a ailleurs. Donc, j'espère
la faute de l'inspection du travail, alors ?
Non, je ne sais pas, mais bon, je sais qu'elle fait du zèle. Voilà,
c'est pas plus moi compliqué qui le dis, que
on me le dit, voilà.
Prévu, alors.
Qui vous dit ça ?
pas son mari, mais son compagnon, je veux dire. Mais donc voilà, il y a aussi une polémique politique derrière. C'est faire échouer absolument l'idée de reconstruire Notre-Dame ou de rebâtir.
Vous pensez que l'inspection du travail a des ordres pour faire en sorte que...
Non, elle n'a pas besoin d'ordres, elle fait ce qu'elle veut, mais j'entends ce que me disent les ouvriers et les gens sur le chantier.
Mmh. Voilà. On reçoit le complotiste Stéphane.
Non, je
ne
suis pas complotiste du tout. Non, je ne crois pas. Ce qui me gêne, c'est qu'au fond, il y a un élan de solidarité. Je crois qu'il faut... restituer Notre-Dame comme elle était, ça paraît évident, et non pas telle qu'elle était, parce que la polémique, elle est là, elle est... Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique? D'abord, elle n'est pas tombée, il faut sécuriser simplement Notre-Dame, dans un premier temps. Ensuite, faire les devis pour faire les travaux. Et ensuite, il faut la restaurer telle qu'elle était. Pourquoi telle qu'elle était? Telle qu'elle était classée. J'ai pas compris que le président de la République ait dit qu'il faut faire un geste architectural contemporain. Je vois pas l'intérêt.
Bah, il veut laisser une trace peut-être, Emmanuel Macron.
Bah, je pense qu'il
Il reste un
nom propre de tous les. De
oui, mais pas sur Notre-Dame. Non, mais attends, franchement, il y a plein d'endroits où il peut laisser des traces. Moi aussi, je peux faire pipi partout, ça va laisser des traces. Non, mais au bout d'un moment, ça va quoi. Notre-Dame, les gens ont payé et moi j'ai rencontré.
Ah oui, il y a plein de sous, il faut les utiliser.
Non, mais attendez, 300 000 personnes ont donné 10 euros. Mm-hmm. Ces gens, des Français qui m'ont écrit, que j'ai rencontré. Ces gens, ils veulent qu'on reconstruise Notre-Dame telle qu'elle était. Alors,
telle
qu'elle était récemment, telle qu'elle était
juste avant l'incendie,
avec sa flèche.
Et surtout 3 millions d'euros pour refaire Notre-Dame.
Non, 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 mais après il y a eu d'autres dons, etc. Des généreux donateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser qu'il y a des gens comme vous et moi qui ont simplement, dans un geste généreux, envoyé 10 euros. Et ce qui est incroyable, en écrivant, ce qu'ils voulaient, ils voulaient qu'on reconstruise Notre-Dame telle qu'il l'avait aimée, surtout telle qu'elle était classée. Moi, il y a un truc qui m'épouvante, c'est quand on veut faire des gestes architecturaux contemporains, on oublie une chose, il y a des règles. Pourquoi l'État s'affranchirait des règles que l'État impose à vous, à moi? C'est-à-dire, on est dans une république bananière ou quoi? On est dans une république où chaque, enfin, la loi est la même pour tous.
Vous appelez donc aujourd'hui à la démission d'Emmanuel Macron? C'est un geste politique assez fort. Jean-Marc Morandini vient de tweeter.
On a compris que c'était compliqué.
C'est compliqué. Il faut juste restaurer Notre-Dame telle qu'elle était classée. Point. Maintenant, il faut que les travaux avancent. Le général Georges Lain veille au grain, si je puis dire, avec le ministre de la Culture. Enfin, j'espère qu'ils sont sur le chantier et qui vérifient. Non, il n'y a plus de plomb. C'est bon. Il y a eu un rapport qui a été rendu public. Il n'y a plus de plomb. Donc maintenant, on peut avancer.
On arrête de prendre des douches.
Sécuriser. Il faut maintenant enlever l'échafaudage qui a fondu. Ça, c'est compliqué.
Dont les barres ont été soudées par l'incendie.
Exactement. Et ensuite, il faut faire les devis et restaurer Notre-Dame.
Bon, mais on s'y met. On y va maintenant, non?
Allez, go.
Let's rock and roll.
Stéphane Bern, avec nous.
Enfin, je ne suis pas un spécialiste de Notre-Dame non plus.
Vous avez un œil là-dessus de près.
J'ai un œil là-dessus et puis on m'a invité à une ou deux réunions. J'ai mis mon grain de sel qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire.
Vous leur avez mis du plomb dans la tête un peu, c'est ça?
Oui, un peu.
Eh bien, vous avez le micro, Hippolyte Girardot.
Ouais, j'en profite.
Gardez-le.
Vous savez, samedi soir, on a supprimé une heure là pour arriver dans l'hiver, etc. Bon, moi, je trouve ça un peu chaque fois spécial qu'on nous prenne un truc, on dit qu'on va nous le rendre, mais moi, j'y crois jamais. Enfin, bref. Moi, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillé, puis d'un seul coup, dimanche matin, j'ai entendu ça. Waouh ! Ah, je me suis dit, mais il y a un truc qui s'est passé, quoi. C'est soit chez moi dans ma tête. Soit c'est chez eux, mais il y a un souci dans le son, là. Et puis, ça a continué. Bon dimanche, à l'écoute de France. Nous sommes le 28 octobre 2029. Et en exclusivité, nous vous proposerons tout à l'heure un entretien avec le grand Chambellan. Mais d'abord, l'actualité. Hier, samedi, acte 528 des Gilets jaunes qui cette fois ont investi le Champ de Mars, invité par la compagnie Nikon. Cette désormais traditionnelle manifestation, aussi célèbre internationalement que la visite sous-marine du Mont-Saint-Michel, ne peut continuer en effet que sponsorisée par des entreprises privées. Cette fois, cela a provoqué un commentaire acerbe de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Castaner, depuis son cercle de jeux d'Antibes, qui a affirmé, je le cite, « Quand je pense qu'ils ne doivent leur popularité uniquement à cause de la répression que j'ai ordonnée et qui m'a fait des héros, et ils ne m'ont jamais invité. » Message transmis donc aux organisateurs. Sport, 45e match gagné d'affilée par l'OM contre le PSG. Son capitaine, Mandanda, désormais assis sur un pliant durant tout le match, a déclaré qu'il s'ennuyait de ses classicos joués d'avance. Et évidemment, on le comprend. Enfin, la société Nous Boirons, spécialiste du cannabis encapsulé depuis les premières expérimentations thérapeutiques autorisées en octobre 2019, a bondi en bourse hier grâce à sa nouvelle posologie destinée aux tout-petits. Les jeunes parents vont enfin avoir des nuits tranquilles. Ah, on me fait signe. Voilà, nous sommes en ligne désormais avec le grand chambellan Stéphane Bern. Grand chambellan, mes respects. Tout d'abord, pourquoi ces fameuses cérémonies d'anniversaire? Merci de votre question, France. Et je suis ravi de pouvoir ainsi m'adresser en direct et même directement au peuple souverain de France. Notre Majesté m'a demandé d'organiser une célébration célébrant l'accession au pouvoir, je dirais plus volontiers, sa montée au sommet lors de l'enchaînement des échéances politiques de l'année 2019. Ah, vous voulez parler? Rappelez-vous, des municipales gagnées magistralement par les marcheurs, grâce à l'habile utilisation de ce qui s'appelait alors le Front Républicain, si quelques-uns en souviennent, le Sénat, élu par les maires, comme vous ne pouvez l'ignorer, permit alors à notre majesté d'avoir la majorité absolue et puis enfin modifier la Constitution. Et ainsi, sa magnificence éclairée a pu revenir au régime monarchique que nous n'aurions jamais dû quitter, à mon avis, mais cela n'engage que moi. Et ainsi, c'est tout à fait. Il y aura aussi, évidemment, nos amis anglais qui nous présenteront la 10e saison du Brexit et... J'ai coupé la radio. Stéphane Bern. Grand chambellan,
Emmanuel Ier. J'ai regardé ma montre, j'ai compris pourquoi ils avaient enlevé cette putain d'heure entre 2 et 3 du matin. C'est celle des cauchemars.
Ah. Hippolyte Girardot, merci Hippolyte. Juliette Arnaud a choisi un troisième sujet pour vous, Stéphane Bern.
Oui, alors les représentants des anciens combattants, ils sont pas contents. Qu'est-ce que le pauvre poilu, qui est déjà privé de participants, on le rappelle, un paix à ton âme, Lazare Ponticelli, allait-il faire dans cette galère? Fallait-il féminiser et sexiser? Bah oui, les femmes, c'est sexy et féminin. L'uniforme des millions de soldats qui ont donné leur vie pour la France. Est-ce que vous l'avez vu, Stéphane, ce...
J'ai vu d'un côté, mais de l'autre, j'ai l'impression que c'est très dénudé.
Alors, de face, j'explique aux auditeurs. Alors, en fait, elle a la tunique bleu roi, le pantalon rouge garance, comme il se doit, sauf qu'il est ouvert du haut de la cuisse à la cheville, avec un petit paletot croquignolet. Et je pense que la styliste, c'est parti d'une bonne intention.
Oui, voilà. L'intention est bonne, c'est vouloir rendre hommage au poilu.
Et pour autant, c'est l'enfer.
Bah, c'est-à-dire, bon, ça, on a un peu oublié, ça devient un gag. On oublie quand même qu'il y a des gens qui sont morts dans les tranchées, quand même 18 millions de morts, cette guerre, la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'on peut difficilement jouer avec les symboles. Enfin,
une initiative assez malheureuse.
Je sais pas si c'est malheureux, mais c'est...
Non, mais sur le papier, on se doute bien que c'était...
C'était couru d'avance, quoi.
Oui, mais qu'elles étaient dit, tiens, ça va être...
Oui, ça va être joli, on va rendre hommage aux poilus pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Bon, déjà, elles savaient qu'il y avait eu une Première Guerre mondiale, parce que moi, j'entends le résumé des émissions de télé-réalité. Bon, ils ont du mal avec l'histoire, quand même. Hein. 14-18, ça leur dit plus grand-chose. Ils étaient pas nés, et forcément, moi non plus, je n'étais pas né sous Napoléon, mais je sais quand même qu'il a existé.
Bon, mais bref. Justement, ça aurait permis, peut-être ce costume aurait permis, un, aux gamins de se figurer à quoi ça ressemblait à un costume de soldat en 1914, et de se rappeler quand même
un uniforme,
et qu'on envoyait des soldats de 20 ans avec un pantalon rouge garance.
C'est vrai,
c'est-à-dire
mais la commune est très ouverte, j'ai peur qu'on on confonde ce que voulait dire le poilu, si vous voulez. et donc ça, je comprends que... le symbole n'était pas forcément bien
choisi. Ça nous a permis de nous rappeler que l'uniforme des Français, c'était, mais le pantalon était rouge pétant. On est là.
Ouais, mais comme on était plus fort que les autres, on n'avait pas besoin de se faire chier en camouflage, en fait.
Cette histoire de l'uniforme du soldat, mais vraiment bleu pétant en haut et rouge pétant en bas, c'est. C'est très embarrassant parce que les Allemands, ils avaient changé dès le début du siècle.
Ils ont changé, exactement. Mais nous, après, on a changé, on a pris bleu horizon.
On en a fait tuer un certain nombre quand même avant de changer.
Oui, absolument. Non, c'est pour ça, c'est difficile de jouer avec les symboles.
Il n'y avait pas de principe de précaution à l'époque.
Non, il n'y a pas. Non, mais on en rit. Mais je pense qu'on ne doit pas trop se moquer de la mémoire, surtout des gens qui sont morts dans toutes les familles. Il y a eu des gens, surtout les femmes ont tenu le pays. À la rigueur, si c'est pour rendre hommage aux femmes, les femmes qui ont tenu le pays pendant la guerre de 14-18, parce que c'est elles qui tenaient l'économie du pays pendant que les hommes étaient au front.
Elles n'avaient pas d'uniforme dévolu.
Non,
mais
oui.
Stéphane Bern, nous terminons souvent cette émission par un sketch et on voudrait jouer avec vous.
Ah, j'adore. Et j'ai un texte.
Oui, alors on le découvre tous en même temps. La semaine dernière, dans la matinale de France Inter, Cécilia Attias et Louis Sarkozy, son fils, étaient invités. Nous, on était dégoûtés de ne pas être à l'antenne, alors on vous a fait un petit résumé. Cécilia Attias, Stéphane, vous serez Louis, l'enfant roi. Je serai la régente. Charline sera Léa Salamé. Et Guillaume sera Nicolas Demorand.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Léa Salamé, c'est à vous pour une interview coup de poing.
Absolument. Alors, première question, sans détour. Hein. Voulez-vous un café?
Un cours, s'il vous plaît. Ça me rappellera mon ex-mari.
Et vous, Louis, avec ou sans sucre?
Pareil que ma mounette.
Vous avez vu comme il est adorable?
Oui, tout le portrait de son père.
Oh, vous me flattez.
Ah bon?
Alors, Louis Sarkozy, quel temps fait-il aux États-Unis?
Je crois qu'il y a du soleil.
Louis, tu es formidable.
C'est très intéressant, mais développé, Cécilia.
Oh, je voudrais surtout pas tomber dans l'exagération, mais je pense que Louis est l'homme politique de demain.
Arrête, ma mounette. Tu vas me faire rougir. Moi, je suis pudique.
Ne fais pas l'idiot. Pourquoi crois-tu qu'on t'a prénommé Louis?
En rapport au Louis d'or, parce que papa aime bien l'argent.
Certes, mais pas seulement.
Louis, je crois que votre maman fait allusion au roi de France.
Ah oui, Louis 1, Louis 2, Louis 3.
Il est merveilleux. Il comprend tellement vite.
Louis 4, Louis 5, Louis 6.
Quel prodige, ouais.
Ah bah je sais compter jusqu'à 18.
Eh bien justement, je pense que tu seras Louis XIX, prochain roi de France.
Louis, vous êtes favorable à la légalisation du royalisme ?
Je pense qu'il faut aller plus loin que le royalisme thérapeutique.
Ça vous passionne l'histoire de France ?
On ne peut rien vous cacher, j'ai déjà lu tout Laurent Deutsch.
Et il ne manque jamais un numéro de Secret d'Histoire de Stéphane Bern.
Quand j'accéderai au trône, Stéphane Bern sera mon dauphin.
Eh ben on a hâte.
Que Louis soit notre roi ?
Non, on a hâte que l'interview se termine.
Cécilia, Louis, un dernier mot peut-être ?
Il sera roi en 2035.
Mamounette, c'est dans combien de dodo 2035 ?
Allez, on compte. 1, 2, 3.
Voilà, si vous aviez raté cette interview, c'est un résumé.
Fidèle.
Merci beaucoup Stéphane Bern.
J'ai ri avec vous, merci.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle qu'on peut vous voir sur scène en ce moment au Théâtre Montparnasse dans Vous n'aurez pas le dernier mot, un texte de Diane Ducret dans une mise en scène de Jérémy Lippmann où vous êtes seule en scène. Je rappelle que ce soir, vous pouvez voir sur France 3 un nouveau numéro de Secret d'Histoire consacré à Marie la Sanglante sur le trône d'Angleterre. Et puis le livre Secret d'Histoire, le volume 9, Stéphane Bern, c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci Charlie, merci Guillaume, merci à tous, Hippolyte, Thomas VDB, Juliette, merci à tous.
On a eu un petit goût de fou du roi.
Ah, c'était sympa de vous retrouver.
Merci, c'est la fin de cette émission. À demain où nous accueillerons l'humoriste Carla Bianchi.
Et donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.